Le De Rigmine Principum est un texte sec et aride, s'appuyant sur la tripartition de la philosophie pratique en morale, économie et politique. Il développe sur plus de 200 chapitres les normes que devrait suivre le monarque idéal de façon avant tout théorique. Ainsi, comme le fait remarquer Matthew Kenshall en 2005 dans The Rhetoric of Gilles of Rome's De Regimine Principum, Gilles refrains from appealing to a mass of illustrative exemplars drawn from the past. Donc, d'un côté, on a Gilles de Rome qui développe dans un traité de 200 chapitres une théorie sans exemple. Et à l'inverse, la traduction glosée castillane, produite en premier lieu au milieu du XIVe siècle, fait appel à un nombre très important de ces exemples tirés du passé. Un type d'exemple que l'on peut retrouver par exemple chez Vincent de Beauvais ou chez Gibert de Tournai, toujours chez, selon le même auteur, Kenshall. Donc cette abondance de matière exemplaire et narrative est intéressante quand on étudie la matière conceptuelle du Regimiento de los Principes Glosado. C'est maintenant l'articulation entre concept et récit qui va donc m'intéresser aujourd'hui, comme Carlos vous l'a présenté. Donc, pour ce texte, en réalité, trois états coexistent, datés respectivement de 1350, premier état ou version A, puis, plus tard, dans le XIVe siècle, on a une version B, dont je m'occupe à éditer la troisième partie du troisième livre, et une deuxième recomposition, donc la version C, qui daterait plutôt de la fin du XVe siècle, dont je ne m'occupe pas. Donc, pour le résumer en une phrase, le passage de A à B voit la glose s'amplifier et la traduction se résumer. Cependant, pour la partie dont je m'occupe, les différences sont relativement minimes. Cette partie est intitulée En qué muestra en cómo se ha de gobernar el reino y la ciudad en tiempo de guerra. Donc cette partie reprend en partie donc le De Re Militia de Végès, texte important de littérature militaire, on va dire un art de la guerre. Si l'on s'arrête tout d'abord au titre des chapitres, le texte de 3-3 semble très technique et ne semble s'intéresser à la guerre que comme art. Cependant, une première lecture montre vite que la théorie et la conceptualisation sur la chevalerie y est omniprésente, en particulier dans la glose, donc dans le passage propre au contexte castillan qui m'intéresse. Donc, on observe dans cette glose un va-et-vient permanent entre exemple et discours théorique. Nous avons ainsi un texte composé de deux types de théories différents. Un versant plus technique, donc Végès, et un autre plus politique, qui est l'apport, donc comme je le disais, propre de la glose, apport duquel je vais parler ce matin. Pour la glose de 3-3, parler d'un passage du concept au récit est particulièrement pertinent. En effet, on observe, entre le premier chapitre et le dernier, le passage d'un discours purement théorique à un discours entièrement narratif avec l'histoire d'Alexandre. On va voir ça au long de mon exposé. Donc, comment décrire et expliquer cette évolution? Je vais répondre à ces questions en me recentrant donc sur le rapport entre conceptualisation et exemplification, en me centrant en particulier sur les concepts qui vont définir le chevalier. Dans ce processus de description, de prescription du chevalier idéal, comment envisager la relation, l'articulation entre apport narratif, essentiellement donc constitué d'exemples historiques, et apport doctrinal du texte? Passe-t-on spontanément de l'un à l'autre? Vont-ils aussi toujours de pair? Donc, je vais suivre le plan suivant pour mon exposé. Premièrement, je parlerai du concept seul, quand le concept campe seul, puis je m'intéresserai à l'illustration du concept pour enfin parler d'un certain refus du concept à la fin de la partie, avec l'entiemplo qui devient la seule matière du texte. Donc première partie, quand le concept campe seul, en particulier 3-3-1, définir et moraliser la chevalerie. Le premier chapitre, qui permet de poser la première définition du concept de chevalerie, est intéressant du point de vue du concept, car c'est un des seuls chapitres de 3-3 qui est composé presque exclusivement de matière doctrinale et qui ne comporte presque pas de matière narrative. On a juste un exemple, c'est-à-dire un douzième de la glose qui est composé d'exemples, contrairement au reste du texte où on est plutôt à 50% d'exemples dans la glose. Je vais m'intéresser d'abord au titre de ce premier chapitre. Le titre du premier chapitre est parlant, en particulier le titre tel qu'il est présent dans l'incunable. Capítulo primero en que demuestra que cualquier obra de batalla se contiene sola arte de la caballería. Le latin ne dit pas exactement la même chose. Le latin dit quid est militia et ad qua est instituta et quod omnis bellica operatio sub militia continentur. Ce qu'on pourrait traduire par qu'est-ce que la chevalerie, pourquoi elle a été instituée et à quel point et combien l'œuvre de bataille est contenue dans cette chevalerie. Donc les manuscrits que j'ai pu consulter ne proposent pas de titre ou alors reprennent le titre de la partie. Pour l'incunable, le premier point à commenter, me semble-t-il, est que le titre 2, 3, 3, 1 oriente la lecture vers une définition de la guerre comme précaré exclusif de la chevalerie. Ça, c'est pour l'incunable. Cependant, le programme du titre du texte latin est bien repris dans le texte. Donc il y a une opposition entre le titre et le texte. Donc on trouve dans 3-3-1 dans le manuscrit J et dans tous les autres manuscrits en fait, et por ende conviene de saber qué cosa es caballería et para qué es establecida et que toda obra de batalla se contiene sola arte de la caballería. Et este es el primer capítulo de esta parte postrimera que está en tres conclusiones, etc., etc. Pour autant, à mon avis, ce titre tronqué de l'incunable dit bien, à mon sens, quelque chose de l'intérêt pour les compositeurs de cet incunable qui tourne autour de la monarchie des rois catholiques, à mettre la guerre sous l'aile de la chevalerie. Ça, c'est la première conclusion à laquelle j'arrive. Donc, on trouve bien, dans un second temps, dans le texte castillan, une définition de la chevalerie. Je relirai cette évolution à la définition qui est donnée de la chevalerie par la partie du texte qui correspond à la traduction de Gilles de Rome. Donc là, je m'intéresse à la traduction de Gilles de Rome et pas à la glose. Conviene de saber que caballería es sabiduría de lidiar ordenada a bien común. Définition glosée plus loin. Y así parece que esta arte de caballería es en una manera de sabiduría por la cual se han de vencer los enemigos y aquellos que embargan el bien de la ciudad o del regno. Le texte, lui, latin, propose deux définitions distinctes. D'abord, nam uidetur militia esse quaedam prudentia bellicis operis ordinata ad commune bonum. Donc, on peut voir que la chevalerie est une sorte de prudence, quaedam prudentia bellicis operis ordinata, donc ordonnée à l'œuvre de la guerre pour le bien commun. C'est la même définition. Donc, on est ici face, dans le texte latin, à une chevalerie définie comme une prudentia. Le texte castillan va décider de traduire par sabiduría, un savoir, avec donc une équivalence entre prudence et savoir au profit de ce dernier concept. Ce que je dis là n'est pas particulièrement original. En fait, Jesús Rodríguez Velasco, dans sa thèse, a déjà mis en avant cette évolution qui apparaît donc dans tous les manuscrits. Il s'agirait de la part de Gilles de Rome d'une modification importante de la conception de la chevalerie au bas Moyen-Âge. La force est remplacée par la prudence, qui est donnée comme équivalente au savoir, vertu plus à même d'être partagée par le grand nombre de nobles lettrés, comme ceux qui commandent et participent de la définition, de la diffusion du régimiento. Donc, à mon avis, on peut confirmer les paroles de Jesús Rodríguez Velasco, en mettant en avant cette assimilation entre prudence et savoir qui participe de l'appropriation de la figure du chevalier par cette noblesse lettrée, notamment de la fin du XIVe siècle et de tout le XVe siècle finalement. Je vais m'intéresser maintenant à la fin de ce premier chapitre, avec une variation importante entre manuscrit et incunable. Cette variation montre des points intéressants. En effet, on a un ajout de l'éditeur de l'incunable de 1494 qui est, comme je le disais, probablement commandé par l'entourage des rois catholiques. Et cet ajout est à commenter. L'incunable va proposer une vision plus ample et faire apparaître la figure du bon roi, mais le bon roi comme maître de ses chevaliers et sachant justement répartir les récompenses selon les mérites de ceux-ci. Et por ende, los reyes deben ser tan benignos y magnánimos a los suyos en les conocer los buenos servicios que les fizieren los sus caballeros en las batallas, que por ellos siempre sean remunerados, faciéndoles mercedes según las cosas que fizieren, y según los peligros a que se pusieren por el servicio de la corona real. Donc, les partidas sont vraisemblablement la source de cette fin de premier chapitre, dans ce paragraphe en particulier, qui, je le rappelle, n'apparaît pas dans les manuscrits, et seulement apparaît dans l'Incunable de 1494, qui est particulièrement intéressant. La segunda partida nous dit « Galardón es bien fecho que debe ser dada francamente a los que fueren buenos en la guerra por razón de algún bien fecho señalado que fizesen en ello », etc., etc. Donc d'un point de vue du concept, on a ici une réelle actualisation du texte avec de la matière juridique propre à la Castille d'un siècle auparavant. Mais si on reprend le paragraphe, ce paragraphe qui apparaît ici, on s'aperçoit assez facilement que le texte n'est pas repris comme tel, qu'il est lui-même actualisé, et qu'on y ajoute des concepts intéressants tels celui de magnanimidad. En effet, on retrouve ainsi des concepts de philosophie morale qui sont présents et définis dans 1, 2, 23, donc dans la première partie du Regimine, qui traite de, je le disais au début, de l'éthique, de la morale. Donc, ce concept de magnanimidad est ici clairement politisé, et on passe, j'ai l'impression, d'une certaine manière, on me corrigera peut-être, de la morale à l'éthique, c'est-à-dire de l'être bon au bien agir. En effet, dans 1, 2, 23, on parle de la magnanimité en général en l'appliquant à l'homme et dans son ensemble. Au contraire, ici, la vertu est définie et précisément contextualisée, comme vertu du roi qui récompense ses chevaliers qui le servent. Ces vertus, une partie de ces vertus, ont déjà été traitées dans le premier livre, d'où une forte unité pour le volume. Je reviendrai sur cette caractéristique. Donc, dans le Regimiento, dans un premier temps, le concept peut camper seul, et il n'est absolument pas figé, c'est le point qui m'intéresse. On a ainsi, après une définition de la chevalerie comme un savoir, une sorte de d'éthicisation du discours politique, discours de la source latine principale, le De Regimine, donc ou la source minoritaire, et les partidas. Donc, ce phénomène, on va le voir, est constant dans le texte. On moralise tous les concepts, notamment les concepts politiques, en particulier dans l'édition de 1494. Ça, c'est pour le concept, on pourrait dire, pur. Que se passe-t-il maintenant pour les chapitres où coexistent théorie et matière narrative? Donc, illustrer le concept. La glose de 3.3 est très riche en contenu théorique et ou conceptuel. On trouve une logique assez claire, notamment, on trouve deux groupes entre les chapitres 1 et 16, et ensuite les chapitres 17 à 23, dont je parlerai en troisième partie. Donc, il y a une logique dans la transition de 1 à 16 entre traduction et glose qui revient à passer finalement de l'exposition du combattant, du bon combattant du point de vue technique au bon chevalier, c'est-à-dire la version politique de cette figure du chevalier. Donc, le récit sous sa forme exemplaire, on va le voir, participe pleinement de ce processus. Il faut savoir que les exemples donc présents dans le texte du Regimiento sont presque tous soit historiques, soit bibliques. Donc quel type de récit ? Le récit qui se déroule dans les exemplats est essentiellement un récit historiographique au passé. Je vais parler ici de récits sans m'intéresser aux enjeux de véridicité. Donc quelle articulation entre exemple et doctrine ? Je peux mettre en avant une première typologie avec deux façons principales d'articuler l'exemple avec la doctrine. Fonctionnement A, dit déductif. On a l'idée exprimée, le concept, un exemple qui est introduit par un ejemplo de ou on de cuenta ou et desto cuenta, et fermeture, c'est-à-dire une déduction introduite par on de parece. Donc ça, c'est ce que j'appelle le premier fonctionnement déductif de la glose et de l'articulation entre exemple et entre théorie et exemple. Et un deuxième fonctionnement, dit inductif, qui est un peu plus fréquent, donc simplement idée exprimée, exemple à nouveau introduit par un ejemplo de, on de cuenta et desto cuenta, et pas de fermeture. Donc ça, c'est quelque chose de plus illustratif, finalement. Il n'y a pas, ça participe un peu moins de l'argumentation. Concernant le concept dans le récit, en fait, il paraît parfois assez artificiel finalement de vouloir opposer concept et matière narrative ou exemplaire. En effet, l'exemplum peut évidemment lui aussi véhiculer une matière conceptuelle forte, comme ce qui va suivre. Donc, « Et muestra papillas muy bien et dice que caballero, tanto quiere decir como uno escogido de mil » ouvre l'exemple et on finit avec l'exemple de Romulus qui va créer Rome et qui décide de prendre 1000 chevaliers et de là serait né le nom de caballero, en l'occurrence de miles en latin. Donc comme on le voit, la théorisation ne passe pas seulement par du discours pur sans illustration et le récit peut fournir une confirmation du discours théorique, voire même être porteur de théorie. En l'occurrence ici, la voie narrative semble théoriser à partir du récit et l'exemple devient finalement, il me semble, une preuve. Deuxième exemple, on est dans de la matière alexandrine ici, donc dans 3-3-4, la glose traite de la façon dont le roi doit se comporter avec ses chevaliers en tant que modèle autant que de dirigeant. Ici donc on a un discours de Philippe de Macédoine sur la largesse et le récit, en l'occurrence ici l'exemplum historique, est aussi utilisé pour véhiculer de la matière doctrinale et théorique du texte. Donc on le voit, et porque esto es muy sucia cosa para rey, dijo Filippo que más era corrupción que largueza. Et là, ce qui suit, c'est relativement ambigu parce qu'on ne sait pas exactement qui parle, mais on nous dit que el que toma algo siempre hace peor, esperando que siempre le darán está siempre aparejado para recibir. Donc on pourrait envisager que on continue dans l'exemple et qu'on est dans du discours indirect libre et le discours autorisé par la parole de Philippe qui va expliquer finalement qu'est-ce que la largesse. On peut observer une sorte d'insertion de matière doctrinale, une tentative de définir, de préciser un concept dans ce qu'on peut considérer ici comme le discours narratif, en l'occurrence, plus précisément, du discours indirect libre. Largesse, magnanimité, comme on a pu le voir, donc les concepts, et parfois les exemples même, reviennent d'un chapitre à l'autre, d'un livre à l'autre, phénomène qui est permis par, finalement, le caractère tripartite de la matière traitée. Et là, une figure qui me semble assez pertinente pour décrire ce phénomène, c'est la figure de l'escargot. C'est-à-dire, on a une forme de progression en spirale, et les concepts semblent venir en décidant donc une coquille d'escargot. On a les concepts qui reviennent avec une réactualisation au fur et à mesure du texte, notamment politique, en passant de la morale à la politique. On va réutiliser les concepts en les recontextualisant, en les réactualisant en fonction du discours porté dans 3-3. Ainsi, pour reprendre l'exemple précédent, la largesse est déjà définie en 1-2-17. Et on observe donc une réinterprétation des concepts au fur et à mesure de l'avancement du traité. En l'occurrence, ici, cela tend à servir la construction de la figure du chevalier qui s'observe donc tout au long de la dernière partie du Regimiento. Donc on le voit bien, dans ces chapitres du Regimiento, la doctrine pure et sèche ne semble pas suffisante. Et là, il faudrait se poser la question, peut-être pourquoi. J'avancerai une explication qui tiendrait peut-être à l'idée de didactisme de l'œuvre qui est produite, selon les prologues, à destination du jeune fils d'Alphonse XI, donc le futur Pierre le Cruel, à la manière finalement de la production du propre De Regimine Principum qui est produit par Gilles de Rome pour le futur Philippe le Bel. Donc on va s'intéresser maintenant à la fin de la partie où la glose laisse le pas à la matière narrative, laisse entièrement le pas à la matière narrative. Refuser le concept, l'exemplum omniprésent dans la fin de la partie. Et premièrement, je vais parler de rupture notamment structurelle. En effet, à partir du chapitre 17, la glose n'est plus que constituée d'exemples. On voit avec les graphiques là, vous voyez, bon là, c'est la quantité d'exemples par chapitre. C'est simplement pour illustrer, donc on a une évolution normale, plus ou moins d'exemples dans la glose par chapitre. Et à partir du chapitre 17, on tombe à un seul chapitre, à un seul exemple par la glose. Si on s'intéresse à la quantité de mots dans l'exemple dans la glose, pareil, on a une fluctuation dans tous les chapitres, et à la fin, à partir du chapitre 17, la glose, l'exemple vient à être presque à 100% de la glose. C'est-à-dire que, pour le dire d'une autre façon, à partir du chapitre 17 et pour chaque chapitre, la glose n'en vient à ne comprendre qu'un seul exemple qui prend toute la place du texte. Pour bien l'imaginer, donc on a alors qui apparaît une histoire d'Alexandre finalement saucissonnée, c'est-à-dire qu'on a la fin de la, on a l'histoire d'Alexandre qu'on va insérer en feuilleton par chapitre. À chaque chapitre, on a un bout de l'histoire d'Alexandre, un bout pour chaque chapitre. En particulier, donc les chapitres 19 à 23 narrent l'histoire d'Alexandre et sa conquête du monde et de l'outre-monde à partir de sources comme, entre autres, le Libro de Alexandre, comme le mettent en valeur Suárez Somonte et González Rolán dans un article paru en 2003. Donc, à première vue, on est dans une espèce de texte hors sujet. En effet, la traduction ne parle que de doctrine, enfin de théorie militaire brute, d'un art militaire, comment on mène la guerre, comment on va construire le bateau, comment on va construire les engins de siège, comment se défendre face aux engins de siège. Et quand on passe à la glose, c'est Alexandre et sa conquête du monde, Alexandre contre Darius, Alexandre et sa mort émouvante. Donc finalement, je pense que, est-ce que c'est vraiment hors sujet ? Et je vais parler premièrement de la question de l'illustration, la question de la description, de la définition de l'image du chevalier idéal. Ce hors sujet, donc apparent, prend tout son sens si l'on s'intéresse au discours porté sur Alexandre, qui est un discours relativement glorificateur et qui porte le roi macédonien comme idéal du roi chevalier. Ainsi, Alexandre, premier chevalier du royaume, est-il mis en scène dans ses trois combats contre Darius, dans sa clémence contre celui-ci, dans son honneur dans la mort par trahison de ce même Darius. Donc, l'Alexandre mis en avant semble bien mourir de son caractère d'homme extraordinaire. Et on va voir le dernier chapitre du traité est particulièrement pathétique et émouvant. Et je le mets simplement parce que ça me paraît vraiment finalement un beau texte. Il y a une esthétique dans l'écriture dans la réécriture de cette histoire d'Alexandre qui est assez intéressante. Et ainsi murió un tan buen señor por un tan falso privado y allí partió todos sus reinos y regnados a aquellos sus ricos hombres y caballeros y privados y a sus criados. Simplement un détail, et ainsi murió un tan buen señor, j'ai pas encore vu tous les manuscrits, l'incunable nous dit un tan noble señor. Donc il y a vraiment une différence, c'est vraiment très très intéressant la question de Saint Incunable qui va modifier le texte, qui va l'arranger selon les intérêts de qui, je ne sais pas encore, mais de personnes à la fin du 15e siècle. Et dio el regno de Egipto a Ptolomeo y mandó soterrar su cuerpo en Alejandría, la cual Stibdad él fidiera y nombrara a su nombre. Donc un texte, ça c'est la fin du texte, hein, c'est le texte finit là-dessus et il ferme le Regimiento de los Príncipes sur ça, sur la mort d'Alexandre. Fini comme un roman, c'est vraiment intéressant et je trouve assez magistral. Donc cependant, Alexandre, il est avant tout vu ici comme un chevalier idéal, un buen o noble señor, exemplaire en lui-même en ce qu'il est digne d'être imité par ses chevaliers sujets, comme donc le confirme une énaration du chapitre 19, dont je n'ai pas le temps de parler ici, et qui met en balance finalement son orgueil d'un côté et le reste de l'autre, donc ses qualités exceptionnelles, au profit de ces dernières. Si le rapport, on pourrait penser au texte de Gilles de Rome, est assez lointain, d'un point de vue microscopique, d'un point de vue plus macroscopique, d'un point de vue plus global, si on s'intéresse à l'économie générale de cette troisième partie du troisième livre, il n'y a pas finalement de hors-sujet, mais plus une mise en avant de la figure du roi comme premier chevalier du royaume. Et on pourrait même peut-être aller un peu plus loin et parler un peu d'histoire du texte. L'histoire du texte du Regimiento pourrait finalement expliquer cette impression de hors-sujet que l'on a à la lecture des textes donc des manuscrits et de l'incunable, qui correspondent donc à la version B dont je m'occupe. Selon l'équipe de recherche de Valladolid qui a le plus travaillé sur le Regimiento, le texte originel verrait la glose organisée en oignon, comme ça. Donc, le texte central, Gilles de Rome au centre, et la glose qui l'entoure. Au contraire, la version B et une partie de la version A ne comptent que des manuscrits où la traduction et la glose s'alternent de façon linéaire, Donc on passe d'une glose qui entoure le texte à une glose qui va s'alterner avec le texte de la traduction. Donc si on pense le texte du point de vue de sa production, en s'imaginant presque sa génétique, une nouvelle façon de voir les choses apparaît. Nous sommes alors dans la parallélisation avec deux textes qui progressent en parallèle et non plus dans l'alternance. La logique est un peu plus forte à mon avis. Ainsi, le sens que l'on perd en s'intéressant à la logique structurelle de cette partie pour B semble regagner si on considère notre corpus organisé en strates textuelles parallèles finalement. Et on entrevoit d'une quelque sorte alors un nouveau texte en filigrane, comme l'a mis en valeur donc Suárez en 2003 en produisant un Desatendido libro de Alexandre Prosificado. Mais donc, est-ce que cette structure en filigrane est vraiment si desatendida? Elle peut être comprise, à mon avis, du point de vue de la production du texte, avec ce passage de la glose en oignon à la glose linéaire, et on aurait alors une concurrence, au sens étymologique du texte, du terme, de la glose et de la traduction, dans cette évocation, dans cet esbozo, on pourrait dire, de la figure du chevalier. Sous tous ses angles, sous tous ses versants. Donc, pour conclure, à première vue, la fin du Regimiento de los Príncipes est vraiment le passage du concept au récit. Après une mise en forme théorique de ce que devrait être le chevalier idéal, on trouve une illustration du chevalier parfait en la personne d'Alexandre. Du point de vue de la structure du discours, on observe, au moins dans la première partie du texte, un va-et-vient constant entre concept et récit, entre exemple et cristallisation de la pensée en un terme, dans un texte qui vise à définir autant qu'à décrire la figure du chevalier, avec un mouvement autant de description comme de prescription. Cependant, parler du passage d'un concept au récit est donc assez réducteur, j'espère l'avoir montré, tant l'unité est grande dans le discours entre matière exemplaire et narrative et éléments conceptuels. De même, malgré un aspect étonnant à première vue du texte avec un semblant de hors-sujet, l'exemple d'Alexandre ne vient pas, à mon avis, comme un cheveu sur la soupe, mais est destiné avant tout à préciser, à déterminer l'image du chevalier idéal qui est finalement le roi. Donc un chevalier qui s'incarne finalement parfaitement, il me semble, en la figure revisitée d'Alexandre le Grand.